Depuis qu'il y a cette crise financière, le dollar est au fond du trou et l'Europe est dans la misère. Elle commence à fuir de partout. La bourse n'arrête pas de s'affoler et les pays se mettent à couler. Il y a la Grèce qui dégraisse, l'Italie qui la suit, en Espagne ça castagne, l'Angleterre c'est l'enfer, en Irlande ils se pendent. Il y a la France qui dépense, les Allemands pas contents, en Belgique c'est critique, en Pologne c'est la grogne, les Roumains tendent la main, les Slovaques tous patraquent et les Tchèques sont en bois, les Danois aux abois, les Bulgares tous agarrent. En Autriche, ils pleurent riche. Ah bon Dieu que c'est embêtant, le système est patraque. Ah bon Dieu que c'est embêtant, on a le nez dedans. Pour éviter l'inévitable, ce téléphone entre présidents, sans cesse coller à leur portable, on dirait des adolescents. Ils se disent qu'il faut faire quelque chose, en attendant pendant qu'ils causent. Il y a la Grèce qui dégraisse, l'Italie qui la suit, en Espagne ça castagne, l'Angleterre c'est l'enfer, en Irlande ils se pendent. Il y a la France qui défonce, les Allemands pas contents, en Belgique c'est critique, en Pologne c'est la grogne, les Roumains tendent la main, les Slovaques tous patraquent, et les Tchèques sont en bois, les Danois aux abois, les Bulgares tous agarrent, en Autriche ils pleurnichent, dans le monde même fronde, l'Amérique coule à pic, le Japon touche le fond, en Afrique jamais de fric, et l'Asie s'en roussit. Ah bon Dieu que c'est embêtant, le système est patraque. Ah bon Dieu que c'est embêtant, on a le nez dedans. Barack Obama peut rien faire et Sarkozy peut encore moins, mais avec Merkel ils savent faire à nous faire croire que tout va bien. Mais nous on n'est pas des idiots, on voit la tête de Barroso. Là, les genoux qui sont mous et les cuisses qui se raidissent, les guiboles qui flageolent sur ses chevilles, ils se tortillent, les rotules qui ondulent, parce que lui c'est aussi qu'il y a la Grèce qui dégraisse, l'Italie qui la suit, en Espagne sa castagne, l'Angleterre c'est l'enfer, en Irlande il se pend, il y a la France qui dépense, les Allemands pas contents, en Belgique c'est critique, en Pologne c'est la grogne, les Roumains tendent la main, les Slovaques tous patraquent, et les Tchèques sont en bois, les Danois aux abois, les Bulgares tous agarrent. En Autriche, Schipler niche dans le monde, la même fronde, l'Amérique coule la pique, le Japon touche le fond, en Afrique, jamais de fric, et l'Asie s'enroussit, au final, triomphale, la Russie s'enrichit, le Brésil lui jubile, les Indiens, tout va bien, et la Chine, elle domine. Ah mon Dieu que c'est embêtant, le système est patraque. Ah mon Dieu que c'est embêtant, on a le nez dedans.
Vous écoutez Radio Campus Lille, vous avez reconnu. Bonjour à toutes et à tous. Il est midi, le dicton du jour, c'est ça. Alors, le dicton du jour pour la Sainte-Berthe, moisson ouverte. Autour des micros, André et Benoît, pour un magazine d'économie politique. Donc au programme, la mise en scène du pouvoir de l'argent, de la réussite via les classements des grandes fortunes, les montages financiers incroyables, l'évasion fiscale, les salaires astronomiques, les improbables cotations boursières, le dévoiement de la valeur travail, la précarisation, les licenciements boursiers, les délocalisations, les cercles d'influence, les experts mercenaires, le contrôle des médias, le pantoufage, les conflits d'intérêts. Donc restez fidèles à Radio Campus Lille au 106.6. En introduction, vous avez entendu un extrait d'une émission suisse qui s'appelle La soupe à la grimace. Les paroles sont de Laurent Nicolet. Quant à la musique, vous l'avez reconnu. Je ne sais plus si Gaston Ouvrard qui l'avait écrite, ou en tout cas il l'a chanté jusqu'à 80 ans. Je ne sais plus. Franck, je vérifie mes sources parce qu'on va la repasser, celle-là. Et j'ai vu Gaston Ouvrard chanter encore cette chanson à 80 berges. Je pense qu'il devait la haïr à la fin. Donc, Benoît, donc les quelques nouvelles. Le nouveau gouvernement s'est installé. Et il a commencé par des largesses à ceux qui l'ont élu. Donc, une augmentation du SMIC de 2%, si mes souvenirs sont exacts.
C'est ça, oui. Donc, c'est magnifique. On rase gratis depuis que la gauche est au pouvoir. Quand on regarde de près l'augmentation du SMIC, le petit coup de pouce qu'on attendait était vraiment tout petit, puisqu'il est fait 0,6% plus les 1,5%. Alors j'ai pris les chiffres, parce qu'il faut dire qu'est-ce que ça donne sur 35 heures. Avant l'augmentation, le SMIC 35 heures brut, c'était 1 398,37 € exactement. Après l'augmentation, magnifique, on a 1 425,67 € brut. Ça veut dire qu'on a par mois en plus 27,30 €. Je pense que les salariés avec ça, ils vont pouvoir faire la fête pendant tout le mois. Quand on regarde qu'est-ce que ça donne en net, ça revient à plus 20,06 €. Alors on nous dit bien évidemment qu'on ne peut pas faire mieux, puisque si on faisait mieux, on allait tout de suite ruiner l'économie française, abattre sa compétitivité, etc. etc. J'en passe et des meilleurs. Et comme d'habitude, on ne fait pas les bons calculs. Il faut regarder qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça coûte réellement, et est-ce que ça coûte réellement. Bon, deux petits raisonnements tout simples. Ça concerne combien de gens? Alors, les sources varient beaucoup parce qu'on dit sont payés au SMIC 1,8 million de personnes, certes. Mais il y a des tas de gens qui sont payés en dessous du SMIC parce que eux, ils n'ont même pas les 35 heures, c'est des contrats partiels dans le commerce, etc., dans les grandes surfaces, bien évidemment. Et quand on fait un tout petit calcul, les gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté à 60%, ça représente plus de 8 millions de personnes. 8 millions. Un petit calcul tout simple, ça coûterait combien d'augmenter de 27,30 € ces 8 millions de personnes sur un an? Ça représente 2,7 milliards d'euros. Autant dire pratiquement rien par rapport à la valeur du PIB français qui est plus pratiquement maintenant autour de 1 900 milliards. Bon. Donc, on est mal parti sur la question de la nouvelle répartition entre le capital et le travail. Je vais prendre des exemples parce que là encore, il faut toujours préciser un peu les choses si on veut éclairer un débat. Je connais bien le groupe Mulier. Je connais bien le groupe Auchan. Il y a combien de gens chez Auchan? Pour voir un petit peu qu'est-ce que ça représente et que si on tirait des profits de Auchan pour les mettre aux salariés, qu'est-ce que ça donnerait? Est-ce qu'ils seraient ruinés du jour au lendemain? Parce que c'est ça la question de l'augmentation de salaire. Donc, petit calcul tout simple. Sur Auchan France, la partie stricte des hypermarchés. Auchan France, il y a 50 252 personnes fin 2010. Je n'ai pas encore les comptes 2011, ils n'ont toujours rien publié, donc ils font leur cachotterie habituelle. Si on augmentait le SMIC de ces 27 € des poussières, ça représenterait pour Gérard Mulier une petite dépense de 16,5 millions d'euros supplémentaires par an. 16,5. Et il faisait 240 millions de bénéfices. Quand on parle de répartition nouvelle, si on augmentait du double le SMIC, non pas de ces petites bricoles qu'on est en train de donner, mais on multipliait par deux, les 2,6%, on passe à 5,2, ça ne représenterait que 33 millions d'euros sur les 240 millions. Et si on prend l'ensemble du groupe Mulier, pour Auchan, la partie avec les hypermarchés, les supermarchés, Mochon, etc., chez Auchan, groupe tout compris, il y a 69 800 collaborateurs en France, des collaborateurs. On suppose que, bien entendu, il va augmenter partout la même chose et que ça va se répercuter sur les hauts salaires, puisqu'on dit que ça va se répercuter sur les hauts salaires. Ça représentait combien pour ces 69 800 collaborateurs? Ça représenterait même pas 23 millions d'euros, l'augmentation. Le bénéfice, il était combien dans le groupe Auchan? De 857 millions d'euros. Donc 23 millions sur 857 millions d'euros, ça représente une petite ponction de 2,7% sur les bénéfices. Est-ce que c'est ça la nouvelle répartition entre le capital et le travail? Donc, on plaisante. Si on veut véritablement inverser le rapport capital-travail et redonner du salaire au travail en le retirant au profit, il est bien évident que dans ces conditions-là, il faut au moins doubler ce niveau de SMIC. Et même ça, ça coûterait pas cher, puisqu'elle ne coûterait même pas 5% du niveau de ses profits de 2010. Donc, l'augmentation des salaires, c'est une fausse question sur la compétitivité, d'autant plus que l'essentiel des salariés maintenant en France, ils sont dans quoi? Ils sont dans des secteurs qui ne sont absolument pas concurrentiels avec l'international. Auchan, il ne va pas déménager en Belgique ou en Suisse. Les salariés vont bien rester en France pour approvisionner les consommateurs français. Ils sont cloués au sol. Même chose pour Carrefour, même chose pour, bien évidemment, Intermarché, Naori, Casino, etc., etc. Le secteur véritablement touché par la compétitivité ne concerne qu'un minimum de personnes. Et là, on est dans un système où, effectivement, ce qui est en jeu avec les faibles augmentations de salaire, c'est pas du tout la compétitivité d'ensemble de l'économie française. Tout le monde s'en fiche, ça. Ils savent très bien qu'ils sont très compétitifs. Arnaud Pinault, combien ils ont de travailleurs en France ? Même pas 20 000. Donc ça leur coûterait trois fois moins cher que Gérard Mulier. Donc autant dire une petite goutte d'eau par rapport à la masse énorme des profits qu'ils réalisent. Donc on est dans un système où on ne veut même pas donner une miette aux salariés au prétexte que ça va ruiner nos pauvres riches.
Marc, qui nous a rejoint.
Oui, excusez-moi, je n'ai pas été très fidèle à l'heure précise. Voilà, non, simplement, effectivement, sur le SMIC, bon, ça, c'est une chose, c'est évident, hein, je ne vais pas contester à la fois la démarche et tous les chiffres qui ont pu être donnés. Mais moi, il y a aussi une chose qui m'interpelle toujours, c'est le SMIC, c'est ce qui doit pouvoir vivre, normalement, décemment. Ouais. Hein, puisque c'est... Bon, on est au-dessus du seuil de pauvreté, quoi, donc... On pourrait revenir, là. Tout à fait, déjà. Et ensuite, c'est quand je me dis, bon, ok, alors les salariés ou même, la population, elles savent tous qu'elles voient ce qu'elle a dans son porte-monnaie. Quoi. Parce qu'il y a des moments, quand on leur parle de milliards, de mille milliards, de milliards de sabots, les mecs, où ils sont ?
Hein ? Bon. On ne parle plus que de donc, ça, d'ailleurs. On n'entend plus le mot milliard, voilà. En euros.
Et moi, je voudrais là revenir un peu sur le fait de dire, attention, c'est qu'aussi toutes les charges fixes sont de plus en plus importantes
bien sûr, oui.
Par rapport à il y a 10 ou 20 ans. Parce qu'on voit, on va pas revenir sur le prix du gaz qui va augmenter, on va pas. Donc ça veut dire, et moi on me fait rire aussi quand on me dit que la vie n'augmente pas ou qu'elle augmente de 2 ou de 2,5. Quand je vois, je dirais que je fais de plus en plus les courses, chose que je ne faisais pas auparavant. Je me dis, mais c'est pas possible, un œuf.
Et de quelle qualité ?
Voilà, alors on n'en parle même pas. Mais un œuf, un pain. Donc. Mais c'est ça qui me tue. Alors déjà, effectivement, le gros problème de la répartition, des richesses, et donc de donner au moins à celui qui les produit, ben, j'irai sa part. Mm-hmm. Mais il y a aussi, après, tout ce qui est, en fin de compte, qui augmente, dans toute cette... dans tout ce qui fait établir le SMIC, quoi. Je crois qu'on le massacre de plus en plus. On massacre le code du travail, en fin de compte, on massacre le SMIC, quoi. Enfin, ouais, de toute façon, peut-être un peu...
Alors, pour rebondir un tout petit peu là-dessus, ça me semble particulièrement clair. C'est-à-dire que maintenant, l'INSEE calcule dans le budget des ménages la part des dépenses incompressibles, c'est-à-dire la part des dépenses que les gens, de toute façon, ont dépensées avant même de commencer le mois. C'est ce que tu disais, à savoir, ils doivent payer l'électricité, les loyers, les transports qui augmentent, le coût de l'essence, des trucs comme ça. Ça représente à peu près 20 à 25% du budget des ménages, tout compris. Donc, on est avec des dépenses incompressibles parce qu'on a de plus en plus des abonnements de ceci, des abonnements de cela. Il y a l'abonnement Internet qui arrive, l'abonnement de téléphone. Donc, on est avec la télévision. Donc, il y a des dépenses qui sont absolument incompressibles. Et le coût de ces dépenses incompressibles pour les ménages, il augmente beaucoup plus rapidement, bien évidemment, que le SMIC. Il suffit de regarder le coût de l'énergie, de l'eau. Ils ont augmenté de combien l'énergie au niveau de l'EDF et au niveau du gaz de France pour la partie gaz et pour la partie eau. Les groupes comme Vinci, EDF, etc. se font des super bénéfices. Et bien évidemment, eux, tranquillement, ils augmentent après. Ils disent, mais c'est la crise de l'énergie. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout vouloir. Il faut qu'on investisse dans les énergies d'avenir, certes. Mais pas avec les portefeuilles et pas avec ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils investissent pour recapitaliser, pour prendre le contrôle d'autres sociétés. Ils ne capitalisent pas sur de véritables investissements. Ils en font un petit peu, certes. Mais quoi, bon. Donc on est dans un système où, en fait, c'est la puissance qui compte. Et ils utilisent leur profit pour cette puissance-là. Donc ce que je disais, ce qui me semble vraiment très, très important à comprendre, c'est que si on augmente fortement le SMIC, on n'est pas obligé d'augmenter les prix derrière. On diminue les profits. Et qu'est-ce qui s'était passé en mai 68 ? En mai 68, on avait augmenté le SMIC de façon considérable. Que je m'en souvienne, j'étais là. On n'a pas mis l'économie française à plat et à jour. Tout au contraire, on n'a jamais connu une période de croissance aussi importante ensuite. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on était encore relativement protégé. Il n'y avait pas l'internationalisation telle qu'on la connaît maintenant avec tout ce qui se passe sur des tas d'industries qui ont disparu et qui, bien évidemment, comme on ne produit plus rien en France... on est bien obligé de l'acheter à l'importation. Et donc, on est avec une balance commerciale qui est détériorée à cause de ça. Donc, quand on parle, et puisque c'est un petit peu l'objet de l'émission aujourd'hui, de cette nouvelle gauche qui arrive en France, pour l'instant déjà là-dessus, on ne voit pas tellement de changement par rapport à avant. le petit coup de pouce sur le SMIC de 0,6%, alors qu'il n'y a pas augmenté depuis combien de temps? Il n'y a jamais eu de coup de pouce pendant toute la droite au pouvoir depuis Chirac. Donc c'est rigolé, je veux dire. Donc tout ça à cause de cette idéologie qu'il y a derrière sur on ne peut pas toucher à la compétitivité, mais il faut augmenter les salaires sans toucher, bien évidemment, au prix. Et donc on touche au profit, on touche à la répartition. C'est ça qu'on demande depuis très longtemps, d'ailleurs. Et ça permettra aux gens de mieux vivre, de consommer efficacement et de consommer plutôt français qu'autre chose. Voilà. Donc ça, c'est mon petit coup de gueule sur la question du SMIC et la gauche qui ne tient pas vraiment ses promesses déjà sur ce premier point, qui est pourtant fondamental pour les bas salaires. Comme tu disais, il y a énormément de gens, je parlais de plus de 8 millions de personnes, qui vivent avec des revenus très, très, très faibles. Non, et on se demande comment on peut vivre avec ça, effectivement.
Non, puis c'est
on survit.
Ouais, là voilà. Et puis on commence déjà à mettre la classe moyenne déjà presque au niveau du SMIC, parce qu'on dit, voilà, la classe moyenne ne sera pas attaquée déjà.
Le SMIC rattrape progressivement la classe moyenne. Hein.
Voilà, non, mais justement, certainement pas. Et même déjà, on a l'impression déjà de dire, bon, la classe moyenne à 3 500 euros, on peut vivre, on est déjà là, dans le nirvana, quoi. Ben, oui. Je crois que... là aussi, c'est fou. Donc, moi, il y a une régression.
Totale.
Une régression totale. Ouais. Et là, je reviens sur l'histoire de 68. Des économistes dits brillants, dits économistes aussi peut-être, disent encore aujourd'hui que, quand même, si aujourd'hui on est dans cette situation-là, c'est bien la cause de 68.
Oui, mais ils n'ont jamais rien compris. Donc, ce qui veut dire tranquillement que quand on réfléchit un tout petit peu, c'est ce que je disais, qu'on réfléchit un tout petit peu, la répartition, c'est quand même au cœur du fonctionnement économique. La répartition, c'est le fruit de la contribution de chacun au fonctionnement de l'ensemble. C'est ce qu'on disait dans une autre émission il y a à peu près un mois. Vous ne voulez pas payer d'impôts, vous ne voulez pas payer de cotisations sociales. Mais en même temps, vous voulez de la protection avec la police, avec l'armée, vous voulez des infirmières à votre service, des hôpitaux super bien équipés pour vous soigner, etc. Mais attends, ce ne sont pas des gens qui sont improductifs. Ils produisent autre chose, ils produisent des services, et c'est pour ça que je disais, par exemple, toute cette population-là, elle est clouée aussi au sol. On parle de l'augmentation des fonctionnaires, il y en a combien des fonctionnaires qui sont payés au SMIC? On dit dans à peu près 1 million. Et ça va représenter combien pour le budget? Peanuts. Donc c'est pas ça qui coûte. C'est pas ça qui coûte, c'est pas l'augmentation du SMIC. On aurait pu donner un gros coup de pouce au SMIC, mais idéologiquement, on est encore dans l'ère sarkozyste. C'est-à-dire qu'on est en train encore de dire, il faut... être rigoureux sur les budgets, sur les dépenses, etc. Surtout de ceux qui n'ont pas d'argent. Là, on est très rigoureux sur ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, c'est clair. Par contre, on n'est pas encore en train de rediscuter sur... J'ai pas entendu encore parler de restauration de l'ISF. J'ai pas encore entendu parler de la fameuse mesure sur l'augmentation de la pression fiscale pour les fortunes les plus importantes, etc. J'ai pas entendu parler de mesures de rétorsion sur les gens qui s'exilent. Ils continuent à s'exiler. D'ailleurs, il y a des cabinets spécialisés là-dedans. Hein. Les Suisses sont bien placés, d'ailleurs, les Belges aussi. Donc ils ont des cabinets spécialisés en Suisse. Il y a un excellent article dans Capital de ce mois-ci là-dessus. Et les gens, ils se présentent. Je veux dire, il y a des chasseurs de têtes de riches qui disent « Attendez, vous avez le truc clé en main. Vous venez en Suisse. Je vous trouve votre villa. Je vous trouve l'école pour les enfants. Je vous trouve le personnel ad hoc avec les gants blancs qui vont avec pour vous servir parce que, bien entendu, vous avez un certain niveau de vie. » Et bon, quand on voit ça, et ils râlent pour ça, je veux dire, pour cette augmentation-là. Donc sur Pinault et Arnault, combien 20 000 salariés, ça représentera combien 20 000 salariés, ça représentera 8 millions d'euros par an. Sur les 12 mois, c'est rien. C'est même pas, c'est presque le niveau de salaire d'Arnault. Donc on arrête. Donc on parle vraiment de nouvelle répartition. Et tant qu'on n'aura pas cette nouvelle répartition entre les profits et les salaires... Une augmentation du SMIC n'est pas obligatoirement répercutée sur les prix. Ça peut faire baisser les profits. Ah ben oui, mais ça, c'est une autre mentalité. Hein, et il faut arriver rapidement à cette nouvelle mentalité et penser autrement à l'économie. Voilà. On a beaucoup donné au profit depuis 15-20 ans. Ben maintenant, on donne un petit peu au salaire.
Voilà. J'ajoute qu'au niveau des salaires, par exemple, parlons un peu de Camailleux.
Grandiose.
Grandiose. Bon, là, on parlait SMIC, mais c'est bien d'avoir le SMIC. Hein. C'est-à-dire, là, dans ce journal, on a
un exemple d'un employé logistique, autrement dit, il prépare les commandes, 18 ans d'ancienneté quand même, à temps complet, il touche 1180 euros net par mois, mais on est où là?
Enfin, je veux dire, on est nulle part, je veux dire.
Et donc, la seule solution pour lui, c'est comme le conseil, la direction des relations humaines de sa société, c'est de toucher, démarger au RSA. Et donc, il y a un tas de salariés qui émargent au RSA en France. On hallucine. Hein. Donc,
voilà. Plus, ces gens-là, ce sont les mêmes qui discutent sur les excès qu'on a en termes de dépenses sociales. Sur les excès, le RSA, c'est financé par les collectivités locales. Sur les budgets des collectivités locales, à qui on va également serrer la ceinture, si j'ai bien compris ce qu'a dit Héro. C'est quoi l'essentiel des dépenses qui sont dans certaines collectivités locales, c'est justement l'aide sociale au sens large du terme, notamment cela. Si on n'avait pas des entreprises qui payaient pas du tout les gens, on n'aurait pas besoin du RSA. Si on avait des chômeurs qui étaient convenablement rémunérés ou indemnisés, on n'aurait pas ça. Je disais la fois dernière qu'on avait la moitié des chômeurs qui ne touchaient rien. Qui ne touchaient rien, contrairement à ce qu'on raconte partout. Donc, il ne faut pas inverser les choses. Le RSA comme salaire, c'est un pur scandale. Camailleux, il est détenu par des fonds de pension et des fonds d'investissement. Donc, ça veut dire quoi, cette économie-là? On est exactement dans la même économie. On ne fait rien pour la changer. D'autant plus qu'au niveau du SMIC, puisqu'on est toujours sur cette histoire de SMIC, il ne faut pas oublier toutes les exonérations sociales qui existent sur les salariés jusqu'à 1,6 SMIC.
— La exonération asociale.
— Ouais, c'est des exonérations totalement asociales. Parce que non seulement ça empêche l'équilibre des comptes de la sécurité sociale, mais c'est une trappe à la pauvreté qui est absolument incroyable, puisque les entreprises qui bénéficient de cette subvention, le raisonnement est très simple. Moi, je ne vais pas donner quelque chose au-dessus de 1,6 SMIC si je peux bénéficier d'exonération de cotisation. Il en va de ma compétitivité, puisque ma compétitivité, c'est ça. Or, la compétitivité, je viens de le dire, elle n'existe pas. Elle n'existe pas pour les services, elle n'existe pas pour les services à la personne, pour les services aux hôpitaux. Elle n'existe pas dans le commerce, puisque les gens, ils sont dedans. Donc, elle n'existe pas pour une grande majorité de salariés qui sont en France. Le secteur véritablement compétitif au niveau international, il représente peut-être 10% de la totalité de l'économie. Et c'est toujours ça qu'on ressort. Et même quand on prend de la compétitivité de Dassault, etc., on va pas dire que Dassault peut pas payer à ses sous-traitants qu'il emploie et qu'il exploite à mort les 5% de SMIC d'augmentation qu'on pourrait faire. Ça va à peine écorner son milliard d'euros de bénéfices dans l'année. Donc lui, en payant mieux ses sous-traitants, et en faisant en sorte que, bien évidemment, ça coûte pas plus cher, puisque c'est une nouvelle répartition de bénéfices, on pique 100 millions dans les prix à M. Dassault, qui reverse tout ça à ses sous-traitants. Il y a de quoi payer du monde. Si je peux reprendre mes petits calculs, parce qu'il faut être précis là-dessus.
Et en plus, cet argent est immédiatement recyclé dans la consommation.
Absolument.
Et donc, ça relance l'économie.
Tout à fait. 70 000 personnes, le coût, c'est effectivement combien? Même pas 50 millions. À 5%, pas à 2,6. Donc si M. Dassault fait un petit sacrifice de 100 millions sur son milliard de bénéfices, ça veut dire qu'il peut payer bien plus cher l'ensemble des sous-traitants qu'il utilise pour fabriquer ses Rafales, etc., etc. En plus, lui, il demande des aides de l'État pour les vendre. Attends, le beurre, l'argent du beurre, etc., etc.
Voilà, une petite pause musicale, puisqu'il est déjà 12h25. C'est pour ton bien, une chanson de Lucas Sanchez.
Si c'est bon.
Tout est bien cadré. dis ce que tu dois faire. Enfin sur tout ce que tu ne peux pas faire. On pointe du doigt tes faux pas. Fais gaffe, ça c'est un peu trop gras. On s'inquiète de ta santé. Fumée, mais tu n'y penses pas. Mais puisque c'est pour ton bien, tout est bien cadré, c'est certain. Balisez le chemin. On fera de toi un bon citoyen. On te dit que par les temps qui courent, l'important c'est la sécurité.
C'était donc, comment dire, Lucas Sanchez, c'est pour ton bien. C'est ce qu'on nous répète tous les jours d'ailleurs. Bah, c'est pour notre bien, pour notre bien. Tiens, une petite info du 19 juin, une information suisse. Donc le nombre de millionnaires, oui on parle en millionnaires en Suisse, a encore augmenté. Donc avec une hausse de 3,6% en 2011, le nombre de personnes disposant d'un patrimoine libre supérieur à 1 million de dollars a encore pris l'ascenseur en Suisse. Donc le nombre de millionnaires en dollars s'est encore étoffé l'an passé à l'image de l'ensemble de la planète. Il a cru de 3,6%, un rythme toutefois inférieur au 8,3% affiché en 2006. Donc il y a 252 000 personnes millionnaires en Suisse. Parmi les donc fortes croissances du nombre de millionnaires au Brésil, parmi les 12 premiers pays du classement, le Brésil a affiché la plus forte croissance du nombre de millionnaires. Selon les régions, l'espace Asie-Pacifique avec ses 3,35 millions de riches, donc plus d'un million de dollars, compte désormais plus de personnes fortunées que l'Amérique du Nord. Toutefois, ce dernier continent continue d'accaparer la plus grosse fortune. Oui, les très riches sont beaucoup plus riches en Amérique du Nord. Donc en Amérique du Nord, 11,4 milliards de dollars contre 10,7 milliards de dollars en Asie-Pacifique. Donc au niveau mondial, la fortune des 11 millions de personnes disposant d'un patrimoine, quand même 11 millions de personnes, hein, dépassant un patrimoine de 1 million de dollars, a toutefois fléchi de 1,7%. Conséquence des turbulences sur les marchés financiers. À l'exception du Moyen-Orient, toutes les régions ont subi un tassement. Donc, délocalisation, Capgemini conseille aux gestionnaires de fortune de tirer des profits, des effets d'échelle, soit de limiter les coûts et accroître les volumes sous gestion. Il faut continuer de centraliser et automatiser certains processus. Enfin, c'est une information ATS, l'agence d'information suisse du 19 juin. Oui, il faut quand même penser à nos voisins suisses.
Tout à fait. Quand on compare effectivement aux statistiques publiées par Forbes, etc., et puis par Capgemini, effectivement, Merrill Lynch, en 2010, il y avait 42 700 000 personnes qui gagnaient plus de 1 million de dollars dans le monde total. Et les pays qui étaient représentés, l'Amérique du Nord, on avait 11 600 000. L'Europe, 10 millions 200. L'Asie-Pacifique, 10 millions 800. Elle dépasse l'Europe déjà. Et on avait l'Amérique latine, 7 300 000. Et on avait enfin le Moyen-Orient, 1 700 000. Et l'Afrique, 1 200 000. Donc même l'Afrique, le continent le plus pauvre, a 1 200 000 personnes qui sont avec une fortune supérieure à 1 million de dollars. Si on regardait les gens qui avaient plus de 30 millions de dollars, alors là, c'était 103 000 personnes dans le monde, avec des répartitions qui sont 40% l'Amérique du Nord. Je confirme ce que tu disais, André, puisque là, on est, les plus grosses sont très concentrées sur l'Amérique du Nord et l'Europe encore.
Immense fortune.
On est sur des grosses fortunes, grosses fortunes. Bon, donc ça, c'est important. Ce qu'il faut regarder, bien évidemment, c'est ces fortunes se constituent à partir de quoi? Ils profitent de quoi? Ils profitent de la faiblesse, bien entendu, des politiques qui sont menées. On voit très très bien pour l'instant encore que... On attend par exemple beaucoup du redressement de l'économie et du redressement productif. Montebourg redresse fortement sa tête et fait les gros yeux à l'ensemble des méchants capitalistes qui vont essayer de licencier. Bon, j'attends beaucoup de M. Montebourg. Moi, je suis dans des cas où, effectivement, on voit des licenciements qui sont en train de se faire. C'est particulièrement difficile d'essayer d'éviter ces licenciements. On est en train de parler de licenciements et de fermetures d'entreprises chez Peugeot, Air France, etc. Ça, c'est un point fort du programme Hollande, si j'ai bien compris le programme d'Hollande, qui disait bien on allait commencer à arrêter ce type de comportement dans des sociétés qui gagnent de l'argent. Que je sache, M. Peugeot ne perd pas d'argent, loin s'en faut. C'est une des grandes fortunes. Quand on pourra préciser, moi je veux bien préciser une autre fois, j'ai pas fait mes calculs aujourd'hui, mais M. Peugeot est parmi les plus grosses fortunes de France. Et pas simplement sur Peugeot comme tel, il a plusieurs types de participations un peu partout, avec un portefeuille assez étoffé, pas simplement dans Peugeot d'ailleurs. Mais son holding personnel possède pas mal de diversification un petit peu partout. Donc M. Peugeot a de l'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il va fermer Holding? Au motif de quoi? Au motif qu'il ne sait plus produire des voitures, mais il les produit où? Il continue à en produire. C'est un des premiers investisseurs Peugeot Citroën, par exemple, en Chine. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il continue le processus de délocalisation alors qu'il gagne de plus en plus d'argent. Il va faire exactement la même chose que Renault avec la Dacia, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on voit de plus en plus dans nos rues? On voit de plus en plus, effectivement, des Dacia. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on disait tout à l'heure, ça revient tout à fait le problème du pouvoir d'achat. Les gens n'ont plus les moyens d'acheter une voiture normale, comme notre président, entre guillemets. Et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent du discount partout parce qu'ils n'ont plus les moyens de faire autre chose que d'acheter du discount. Et l'augmentation du chômage va entraîner une accentuation de ce phénomène. C'est-à-dire que si on ne lutte pas fortement contre ces délocalisations qui se poursuivent, on va poursuivre la désindustrialisation, on va poursuivre le nombre de licenciements, etc. Or, des licenciements, c'est encore des coûts sociaux, c'est des coûts pour l'État. En toute logique, plutôt que payer des chômeurs, il faut mieux payer des gens qui travaillent dans des diversifications qu'on peut mener partout dans l'économie. On n'est pas obligé d'avoir un modèle économique capitaliste comme celui qu'on a connu depuis 30-40 ans. Ce modèle-là, il peut se modifier fortement avec des besoins différents, des besoins émergents, etc. Donc la question, c'est bien, sur le fond, la question de l'organisation de la division du travail entre tout le monde. Alors, pour faire une bonne division du travail... C'est pour ça que la division du travail, je dis toujours, une division du travail, c'est d'abord une répartition du travail. Et si on répartit le travail, il faut le répartir de façon juste, c'est-à-dire entre tout le monde. On ne va pas me dire en France qu'il n'y a pas du travail pour tout le monde. Ça veut dire qu'on a réparti le travail sur une population qui travaille de plus en plus, qui est de plus en plus stressée, qu'on pressure de plus en plus avec des salaires de misère, et que tous les gens qui ne sont pas dans ce moule-là sont absolument virés. Il faudrait pas faire 35 heures en France, il faudrait faire 28 heures. 28 heures, c'est une autre répartition du travail où tout le monde trouve sa place dans le travail, où l'État n'a pas financé de chômeurs, où l'État, effectivement, fait quoi? Il fait son boulot de répartition et de décision politique en disant « Non, c'est pas comme ça que ça va se passer ». Et on est dans un système où, effectivement, on ne peut pas, de toute façon, au niveau mondial, concurrencer des pays qui n'ont pas les mêmes niveaux de rémunération, les niveaux de salaire, etc. La fois dernière aussi, je disais, il y a de très très bons économistes, même libéraux, qui disent « On arrête, il faut faire du protectionnisme intelligent ». Le protectionnisme intelligent, c'est quoi? Ça consiste à dire « Il faut effectivement faire une division mondiale du travail où on ne se met pas en concurrence avec des gens
pour lesquels on est sûr qu'on sera mort dans 5 ans. Moi, je n'ai quand même pas préconisé pour la France qu'on mette tout le monde au niveau du bol de riz. C'est possible. C'est la tendance qui est en train de se faire, puisque les salaires, vous voyez bien que le SMIC, on ne les augmente pas. Il y a des gens qui sont employés avec combien ? 22 heures par semaine ? Qui touchent combien ? 700 euros ? Ces gens-là, ils sont effectivement exploités au maximum. On essaye de les faire vivre avec des cotisations sociales et avec des petites prestations sociales supplémentaires. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait que ce temps de travail-là soit un temps de travail normal et qu'on répartisse autrement le travail. Mais pour ça, il faut une certaine dose de protectionnisme. Je ne suis pas pour le protectionnisme comme tel. Je pense qu'il faut une répartition, une division du travail au niveau mondial qui soit équilibrée entre les grands blocs continentaux et avec une aide, une véritable coopération internationale. C'est ça le fond du problème. On peut très bien avoir une coopération internationale où on aide effectivement les pays pauvres à se développer progressivement. C'est ce que fait la Chine, c'est ce que fait l'Inde, c'est ce que fait le Brésil, etc. Il ne faut absolument pas être contre le développement de ces pays-là, au contraire. Mais pas pour n'importe quel développement. Ils sont en train de prendre exactement le même système de développement que nous, avec des rémunérations qui sont au 10e ou au 20e de nos rémunérations. On ne peut pas faire une compétitivité mondiale sur cette base-là, ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que soit on va aller avec des salaires de plus en plus bas en Europe, une augmentation du chômage en Europe et notamment en France, avec des plans sociaux, etc., pour être toujours plus compétitif que ça. Air France, par exemple, dont son plan, il dit quoi ? Mais il dit aux pilotes, allez travailler en Chine. Ils ont besoin de pilotes. Ah bon ? Ben, c'est sympathique pour les pilotes français. Les pilotes français, ils ont été formés par qui ? Ils ont été formés par la France. Ils ont coûté dans l'éducation nationale très cher.
On a investi.
On a investi, et notamment Air France, il investit beaucoup dans la formation des pilotes. Moi, j'ai visité le centre de formation des pilotes d'Air France. Ben, c'est génial, je veux dire, avec tous les systèmes automatiques que l'on a pour décollage, atterrissage, etc. Moi, j'ai fait plusieurs crashs déjà dans ma vie, mais dans un petit machin qui était au sol. Hein. Donc ça, c'était sympathique. Mais on forme les gens. Et donc, on forme les gens, ça coûte extrêmement cher. Et qu'est-ce qu'on fait après ? Mais on dit, mais on n'a pas de poste pour vous. Mais c'est absolument ridicule. La division du travail, elle se conçoit comme ça. Une répartition du travail. La division du travail, elle commence dès le ménage. Hein. Un homme, une femme. On peut très bien dire, ben, l'homme ne fait rien, il rentre chez lui. Il s'assoit dans son fauteuil, il regarde un match de foot. Bon, pas la France, parce que c'est pas terrible. Mais à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Je prends ma bière, je regarde le match de football et la femme fait une deuxième journée de travail chez elle. Bon, c'est pas comme ça qu'il faut concevoir la division du travail dans un ménage. Les répartitions sont équitables entre l'homme et la femme. Au niveau d'une entreprise, il y a une répartition du travail, il y a une division du travail. Elle est organisée sous l'égide de la firme. Cette répartition du travail qui est organisée par la firme, elle peut être plus ou moins bien organisée, plus ou moins bien structurée, avec des efforts répartis entre tout le monde. Lorsque Hollande dit, par exemple, dans les entreprises, il n'y aura pas autant d'écart de salaire entre les plus hauts postes et les plus bas postes, là-dessus, il a raison. Mais il faudrait généraliser ça. Il n'y a pas de raison de faire que le secteur privé n'y obéisse pas, alors que le secteur public est concerné. Et il n'y a pas que les PDG qui doivent être concernés ou les membres des conseils d'administration. Ça doit concerner toutes les rémunérations et pas simplement un petit paquet. Et on fera plein de trucs derrière qui vont permettre aux autres de garder exactement le même niveau de rémunération que ce qu'ils avaient avant. Donc cette répartition égale et équitable, elle doit se faire comme cela. Donc répartition de la division du travail et répartition dans l'entreprise. Microéconomique. Après, qu'est-ce qu'on avait ? Jusque dans les années 60-70, on avait une répartition macroéconomique du travail au sein des pays. Les pays avaient la maîtrise de leur avenir. Ils se protégeaient plus ou moins. D'ailleurs, on pouvait dévaluer à l'époque. Hein. Je vous rappelle que quand on avait un problème de compétitivité, on pouvait dévaluer. Bon, on avait peut-être un petit peu moins à l'étranger parce que ça coûtait plus cher. On achetait moins à l'étranger parce que ça coûtait plus cher. Mais très bien, on redonnait du travail aux gens qui étaient dans le pays. Donc ça permettait d'avoir des marges de manœuvre extrêmement importantes. Ces marges de manœuvre, on les a perdues dans le cadre d'une Europe qui s'est construite uniquement avec des financiers et dans le cadre d'une internationalisation qui est dominée par la finance mondiale. Donc la répartition macroéconomique du travail entre tous les métiers différents, entre toutes les entreprises différentes, la diversité avec ce que je disais tout à l'heure sur les entreprises de services, etc. On a des besoins partout, on a besoin de santé, on a besoin d'hôpitaux, on a besoin de tout. Cette répartition-là du travail, cette division-là du travail a été totalement occultée maintenant depuis 20-30 ans par la division internationale du travail, et pas la bonne. Maintenant, ce qui compte, c'est l'articulation entre la division microéconomique du travail des firmes et la division internationale. C'est-à-dire qu'on a sauté le cap de l'État. On a mis des concurrences en concurrence les États entre eux. Et c'est cette concurrence des États entre eux qui fait que ben, les entreprises font ce qu'elles veulent. Et elles font ce qu'elles veulent en fonction de leurs seuls impératifs mondiaux et non plus en fonction des impératifs des pays dans lesquels vous êtes et dans lesquels je suis. Ce qui compte, c'est quoi ? C'est se faire des profits dans le cadre d'une mondialisation qu'elles organisent elles-mêmes. Et les États sont des pourvoyeurs de facteurs de production, point barre. C'est eux qui gèrent quoi ? Ben, c'est eux qui gèrent la lutte des classes, par exemple. C'est les États qui gèrent la lutte des classes. Ils gèrent la lutte des classes comment ? Ben, ils font de la répression. On parlait du Canada il y a un mois. Ben, c'est exactement ce qui se produit. On peut très bien parler de ça en France avec toutes les lois d'exception qu'on a mis au fur et à mesure et qui restreignent les libertés de faire quoi que ce soit. On fait une manifestation. Oh là là, on risque la loi anti-casseur ou les multiples lois qu'on a mis comme ça. On ne peut plus faire quoi que ce soit sans avoir l'État qui intervient sur des comportements qu'ils ont jugés comme antisociaux, alors que ça n'a rien à voir puisqu'on défend des intérêts qu'on avait auparavant. Rien à voir. Donc ces divisions du travail, elles s'articulent les unes avec les autres. Ce qu'il faudrait redonner, c'est effectivement une division macroéconomique du travail et une division macroéconomique du travail au niveau européen, c'est-à-dire bien organisée avec un pouvoir d'État fort au niveau européen. Quelque chose qui dit voilà comment on va organiser l'Europe dans le cadre d'une division internationale du travail. Les États auront ce pouvoir-là, les firmes, elles seront soumises aux impératifs des États. Et les firmes ne pourront pas faire ce qu'elles veulent, comme elles le veulent, comme elles le font maintenant, notamment par exemple pour cette répartition des richesses. On en arrive à un point qui est crucial, c'est vraiment une question toute bête de lutte des classes. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. La répartition entre salaire et profit, elle se joue sur un rapport de force. Et le problème, c'est qu'on a perdu les rapports de force, qu'on laisse à l'État, soi-disant, le pouvoir de défendre les salariés et les classes les plus défavorisées. C'est ce qu'on a donné au PS. Ce n'est pas tout à fait ce qu'il est en train de faire. Hein. Moi, je ne crois pas pour l'instant qu'on est parti sur le bon chemin. Donc il faudrait redresser rapidement ça. Et un des points fondamentaux, je reviens sur Montebourg, après on s'arrêtera quelques instants, je pense, parce que je traîne. Sur la partie Montebourg, il doit impérativement taper du poing sur la table sur ces quelques entreprises qui sont en train de licencier totalement de façon absurde. Et avec des gestions qui ont été des gestions quand même assez particulières, hein, notamment Air France.
Une petite chance. Michel Lebourg, les pauvres ont voté pour les riches.
Ça te dit, Marc ?
Oui, c'est pas faux d'ailleurs.
Ah oui, non, mais c'est. Voilà, Michel Lebourg.
Alors, comme ça, Marianne, t'en as repris pour 5 ans. Tout bien pesé, tu restes boniche au MEDEF. C'est vrai que des CDD qui durent aussi longtemps, sur le marché du travail, on n'a pas bézef. Tu t'obstines encore à vouloir lécher la main de ceux-là même qui t'envoient au tapin. Tu n'en as pas assez de te faire entuber et par-dessus le marché d'assumer les bébés. Les pauvres votent pour les riches, tant pis, pour leurs niches, tant pis pour les prolos qui se retrouvent le bec dans l'eau. Heureusement que ton aïeul n'est plus là, à coup sûr elle nous en aurait fait tout un plat. Tu n'y aurais pas coupé d'une belle engueulade pour avoir avalé n'importe quelle salade. Marianne, tu as gobé tout ce qu'on t'a présenté. Encore une fois, Marianne, tu t'es fait pipoter. C'est pas de la soupe, Marianne, c'est du rata. C'est pas de la merde, c'est pas de la merde, mais ça viendra. Les pauvres votent pour les riches, tant pis pour leurs miches, tant pis pour les prolos qui se retrouvent le bec dans l'eau. Aurais-tu oublié le monde d'où tu viens, celui des gueux, des sans-culottes, des moins que rien. Et quand on te fait jouer les starlettes dans les palaces, tu oublies un peu où se trouve ta vraie place. Voilà pourquoi Marianne t'en a repris pour 5 ans, en trahissant près de la moitié de tes enfants. Les mal logés, les mal payés, les mal lotis n'ont plus qu'à aller se faire cuire des macaronis. Les pauvres votent et pour les riches, tant pis, pour leurs miches, tant pis pour les prolos qui se retrouvent le bec dans l'eau. Oh, toi qui es fille de la Révolution, n'aurais-tu pas un peu oublié ta mission? Tu n'es pas là pour cirer les ponts pour nantis, mais pour cajoler et protéger les petits. Pense à ton aïeul brandissant son étendard, marchant fièrement tête des communards. Comment peux-tu écouter tous ces politiques qui prônent le libéralisme économique? Les pauvres votent pour les riches, tant pis pour leurs miches, tant pis pour les prolos qui se retrouvent le bec dans l'eau. Les pauvres votent pour les riches, tant pis pour leurs miches, tant pis pour les prolos qui se retrouvent le bec dans l'eau.
Donc Michel Lebourg, les pauvres ont voté pour les riches, c'est sur son album, si ça continue. Si vous voulez vous le procurer, bah, y a... faites une recherche sur le site de Radio Campus Lille. Et bien maintenant, on va retrouver Benoît Boussemard. Hein. Les chiffres que tu cites, Benoît, sont bah, dans un livre que tu as sorti il y a quelques mois. Grande fortune, banquier, politicien, la collusion des pouvoirs face à la crise. Toujours intéressant de, comment dire, d'aller aux sources. Des chiffres hein, par rapport à tout ce qu'on nous donne.
On peut le trouver donc dans les bonnes librairies, c'est ça ?
Ouais.
Il est édition Étain Puis. Et donc on le trouve.
On le trouve dans les librairies, il n'y a pas de souci.
D'accord, c'est un bon livre pour les vacances, ça.
Ouais. Ça sera pas sérieux sur la plage. Hein.
Il y a en ce moment beaucoup de sport, le Tour de France qui est passé juste à côté. Il y en a qui font de l'alpinisme, les sommets européens. Hein. Ouais. À Orchi, oui, c'était ouais. Intéressant, Orchi.
Bah, c'était gênant hier pour passer.
Ah, oui, c'est sans souci. Ah, donc, il parle de 70 ou 80 000 personnes à tourner pour l'arrivée du Tour de France. Enfin, bon.
Et le départ, il y avait du monde. Hein. Bon.
L'entrée était gratuite.
Absolument.
C'est pour ça qu'il y avait du
c'est
monde.
C'est pour ça qu'il y avait du monde. Mais pour ce gars-là, c'était pas autre chose. C'était autre chose. Hein.
Voilà. Donc, l'Europe, finalement, on s'aperçoit que depuis une paire d'années, elle s'en tire quand même plus mal que les autres. Tiens, depuis qu'on est passé à l'euro, les déficits commerciaux, depuis qu'on est passé à l'euro, ont explosé.
Pas pour tout le monde.
Pas pour tout le monde, sauf pour l'Allemagne.
Sauf pour l'Allemagne. Alors bon, on a parlé beaucoup à un certain moment de gros problèmes en Allemagne quand il y a eu la réunification avec l'Allemagne de l'Est, etc. Donc ils ont dû supporter. Quand je parlais tout à l'heure de division macroéconomique européenne, une division du travail macroéconomique au niveau européen, c'est quelque chose qui suppose une toute autre attitude que celle qu'on a eue ici récemment dans le dernier sommet européen. Le dernier sommet européen a été présenté comme une grande victoire de Hollande avec le pacte de croissance qui aurait été accepté par Angela Merkel. Bon, d'accord. Alors c'est quoi le pacte de croissance ? C'est on a ressorti des fonds de tiroir, 120 milliards d'euros, donc à peine 1% du PIB européen, de crédits qui étaient déjà là, dont on ne sait absolument pas pour l'instant encore quand et à quel niveau ils seront dépensés, sur quel type de projet, etc. Donc c'est bien, on a commencé à accepter... Et on dit qu'on va le faire. La règle d'or, en France, c'est un des grands résultats du sommet européen. Cette règle d'or qui impose un carcan financier incroyable à tous les États. Parce que la règle d'or, ça dit quoi ? La règle d'or, ça dit tout simplement que les États s'engagent dans la loi, et si possible dans la Constitution, puisqu'ils vont jusque dans les constitutions, à réduire les déficits budgétaires de telle façon qu'on arrive à l'équilibre dans les 3 ans qui suivent. D'accord. Vous signez ça. Et vous dites en même temps, je vais dépenser plus pour relancer l'économie au niveau européen. Mais qui finance ? Et avec quoi ? On a déjà des déficits budgétaires qui atteignent 3, 4, 5, 7, 8% dans tous les pays. L'Italie est exsangue. L'Espagne est exsangue. C'est les deux grosses économies avec la française et l'Allemagne. Où est-ce qu'on va aller chercher l'argent ? Merkel va pas en donner. Hein. Elle, sans Merkel... Merkel, elle va dire, mais moi, de toute façon, je ne peux pas bouger puisque j'ai ma règle d'or. Donc il n'est pas question que je finance quoi que ce soit dans ce domaine-là. Donc on va aller chercher les fonds de tiroir qui sont dans les fonds européens qui existent encore et on verra ce qu'on peut faire avec ça. Chez nous, on s'était engagé à revoir la règle d'or, si j'ai bien compris la campagne électorale de François Hollande. Or là, tout simplement, il dit ben, on va la faire voter par le Parlement. Puisqu'on a la majorité à l'Assemblée nationale, on a la majorité au Sénat. Petite astuce quand même, on va faire non pas l'inscription de la Constitution, mais dans une loi organique. Ah, c'est un petit progrès par rapport à ce que Merkel voulait nous imposer. Mais on sera quand même tenu. Une loi organique, je vous rappelle que c'est une loi qui est supérieure aux lois normales et qui modifie sur un certain nombre d'aspects la Constitution. Alors c'est vrai que, à la différence d'une inscription de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne pourrait plus dire « Oui, le budget, je vous le retoque s'il n'est pas dans les clous du pacte inscrit dans la Constitution ». Donc la loi organique, elle est moins féroce pour ça, mais elle sera quand même votée. Donc ce qui veut dire qu'on se délaisse encore d'une capacité de réaction qu'on avait en France sur la possibilité de dépenser plus à un certain moment pour relancer l'économie, pour faire des vrais projets, etc. Donc on n'a pas cette Europe qui est en train de repenser la manière de faire son économie. Comme tu disais, l'Europe va mal. Mais oui, elle va mal. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est laissée faire par la finance mondiale, avec en tête l'Angleterre, etc. Je vous rappelle, Attali voulait faire de la France un deuxième paradis anglais avec la finance de Londres. Il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Il y a 6 ans, même pas 5 ans. Donc on était avec déjà des gens qui voulaient nous imposer ce système-là. Les Allemands ne sont pas aussi idiots que ça. Eux, ils ont une industrie qui est encore extrêmement importante. Ils ont un tissu de moyennes entreprises qui est extrêmement fort. Donc eux vivent avec l'Europe. Donc Merkel, elle a acheté un tout petit peu de l'Est. Pourquoi ? Uniquement parce qu'elle sait que si jamais l'Italie, l'Espagne et ensuite la France sont dans une situation impossible, elle va être immédiatement touchée. Et ça, elle l'a bien compris. Donc s'il n'y a plus rien qui marche en Europe, comme l'essentiel de ses débouchés, c'est quand même une grande partie l'Europe et la France, c'est clair que l'Allemagne sera immédiatement impactée par ça et le chômage, il va aller s'exporter en Allemagne. Si nous, on ne commande plus parce qu'on n'a plus les moyens de vivre, c'est ce qui se passe. Qu'est-ce qui va acheter les voitures, les limousines somptueuses fabriquées par les Allemands ? Hein, donc là, il y a encore de la marge de manœuvre en France. On a vu tout à l'heure avec le nombre de riches qui a augmenté. Bon, donc, y compris en France. Mais ce pacte budgétaire, on n'a toujours pas vu dans le pacte budgétaire des mesures fortes. Des mesures, par exemple, sur la spéculation. Où elles sont ? On a dit qu'on allait attaquer la spéculation et la finance mondiale. Où sont les décisions là-dedans ? Moi, j'ai pas vu de décision pour l'instant. On dit on va faire quelque chose. Ah oui, on va faire une supervision bancaire européenne. Ça, c'est sympathique pour les banques. Hein. Ça, c'est clair, c'est sympathique pour les banques. Les banques italiennes, les banques espagnoles, elles vont pouvoir se refinancer au niveau de la Banque Centrale Européenne et ne plus demander ou quêter à d'autres États ou à d'autres financiers au niveau mondial. Donc ça donne une certaine marge de manœuvre. Effectivement, à l'Italie, à l'Espagne, ça leur laisse un bol d'air. D'ailleurs, la bourse, elle a tout de suite compris. Hein. Le lendemain, c'était plus 4,5%. Donc il n'y avait pas photo. Ils avaient bien compris que la finance se sauvait avec la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire que c'est la Banque Centrale Européenne qui va financer, bien entendu, les bêtises des banques qu'elles ont faites déjà. Alors celles qui sont à venir, bah, je ne vous laisse pas le soin d'y penser. Hein, puisque tout est permis et que la Banque Centrale Européenne interviendra, on peut y aller. On peut y aller. Et donc si on peut y aller, on recommence les mêmes bêtises. Hein. Bon. Donc gros problème. Et la supervision bancaire, elle a totalement éliminé une autre question qui était la taxe sur les transactions financières. Alors petit progrès quand même. Hein, petit progrès. Avant, il fallait une majorité de 27 États membres. 27 États membres. Hollande, il a permis... Il n'en faudra que 9. Et on pourra lancer ça. Donc il y a une concession à nouveau de Merkel là-dessus, mais sauf que, bien évidemment, la plus grosse concession, elle s'est faite sur la règle d'or. Et la règle d'or, elle va avoir des conséquences extrêmement importantes sur le budget. D'ailleurs, on vient le voir sur la déclaration de politique générale de Hérault et sur les compléments budgétaires qui sont faits, qui sont pratiquement nuls. Donc on n'aura que le minimum, on est déjà en train de dire dépenses constantes, hein. Les fonctionnaires, le point d'indice, ça ne devrait pas bouger non plus. Donc tous ces éléments-là font qu'on va avoir une politique de rigueur, clairement. Et cette politique de rigueur, elle va bien entendu toucher encore une fois les gens qui sont les plus démunis. C'est clair, comme tout le temps, ceux qui prennent des difficultés quand il y a une politique budgétaire qui est une politique budgétaire de rigueur, c'est bien entendu les plus pauvres. Et les plus riches vont continuer comme avant. Pas de souci.
Donc, bah oui, les plus riches vont continuer comme avant. Il nous reste quelques minutes. Mais alors, que faire de son argent? Tiens, il y avait un petit entrefilet dans le Canard Enchaîné, puisqu'après tout, on est aussi une radio régionale. Donc, il y avait un projet de transformer 153 hectares de garrigues en parc photovoltaïque, installer 320 000 panneaux solaires pour alimenter en électricité 140 000 habitants. Et le projet a été retoqué par le tribunal administratif de Marseille, saisi par la Ligue de protection des oiseaux et le Conservatoire des espèces naturelles de Provence. Et là, on apprend que le promoteur du projet, c'est notre sainte famille nordiste, Auchemulier, Auchan, Flunch, Noroto, Brico Center. Donc, ils se diversifient. Enfin, il faut de l'argent parce qu'ils diversifient leurs activités.
Ils diversifient beaucoup leurs activités. Depuis quelques années, effectivement, ils investissent dans le domaine de l'énergie et des énergies dites renouvelables.
Oui, parce que ça rapporte énormément de subventions.
Ça rapporte énormément de subventions. Avec un problème, comme ces subventions coûtaient de plus en plus cher, un des premiers éléments des budgets de rigueur adoptés par Sarkozy, ça a été de couper dans les budgets justement sur le voltaïque.
Oui.
Et ça a entraîné des faillites assez retentissantes d'un certain nombre de gens qui avaient investi là-dedans à fond, parce qu'ils pensaient que le nouveau pactole était là. De même qu'on a tous les investissements qui sont en train de se faire sur les gaz de schiste. Chez moi, j'ai vu à Valenciennes, il y a quelques...
Ah, ils font des sondages maintenant par ici.
Quelques centaines d'hectares qui sont concernés, je veux dire, et dans le sud aussi. Je leur souhaite bon courage, hein, parce que on dit qu'on est un des pays les mieux dotés dans ce type de réserve.
Donc le Valenciennois va devenir riche et inscrit dans 150 ans à l'UNESCO, patrimoine de l'UNESCO.
En tant que désert. En tant que désert.
Nord-Pas-de-Calais, bassin minier, les biens.
Mais je me souviens d'un certain nombre de mesures qui avaient été prises il y a 30-40 ans. On faisait déjà un petit peu ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on faisait des injections dans les mines. Quand ce n'était plus possible, on injectait de l'eau et on essayait de faire remonter le gaz, effectivement. C'est exactement le même principe.
Hein.
Donc on sait que là, maintenant, il y a des nouveaux procédés, ou alors on casse tout, et après on fait remonter ce qui reste. Sauf que ceux qui sont au-dessus, je veux dire, eux vont se payer les déchets à outrance, quoi.
Bon, on ne peut pas l'arrêter, hein, André.
Oui, voilà. Mais on va s'arrêter quand même.
On est très content de l'avoir toujours à la table. Hein. On peut peut-être se dire, on va laisser passer juillet-août, et puis on se revoit à la rentrée, Benoît.
Sans souci.
Je crois que ce serait sympa. Ça sera après les élections.
Ouais. Ça sera la rentrée.
Ça sera la rentrée et ça sera pas triste, hein, je pense.
Voilà.
Donc on a tout ce qu'on a vu sur les promesses, etc. On va commencer à mesurer un certain nombre de résultats. Ça sera assez intéressant de regarder tout ça, oui.
Chers auditeurs, bonnes vacances.
Bonnes vacances également.
Au revoir.
À bientôt.
À la prochaine.
Voilà. Et je vous laisse avec un poème de Jean-Jacques Sacquet.
Les pauvres adorent les riches. Ça les fait jouir d'aller se faire mettre. Et même, tondus comme des caniches, ils remuent la queue devant leur maître. J'ai plus ma couverture sociale. Je grelotte devant ma tignon. Mais j'attends la fin de leur casse-dalle. Ils vont me refiler des trognons. Eh bien, n'attendez pas que je vous plaigne. Vous mendiez, mais c'est tant pis pour vous. Allez donc leur coller des beignes, ils vont vous les lâcher, les sous. Et si t'as rien dans ta soupière, t'auras qu'à bouffer l'abbé Pierre. Depuis le temps qu'on nous le micro-onde à toutes les sauces et sur toutes les ondes, attaque franchement, fourchette au poing. Depuis 50 ans, il est à point. Du coup, tu retrouves la tradition. Tu leur refais le coup de la communion ?